semaine dernière, on avait assisté à la crucifixion du Messie, du véritable Messie, hein, le Fils de Dieu. On avait vu qu'il avait offert sa vie en rançon pour beaucoup. Sauf que cette crucifixion est indissociable de ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, je ne sais pas s'il reste encore des polyclopistes, vous pouvez les faire passer à ceux qui viennent d'arriver. Merci. Donc la crucifixion, elle est indissociable de ce qu'on va voir aujourd'hui. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quoi? C'est la résurrection. Et en fait, la résurrection, elle vient entériner et confirmer la victoire qui a été remportée à la croix. Et donc, en fait, c'est deux facettes d'un même événement, en quelque sorte, deux facettes d'une même pièce. Et donc, la crucifixion et la résurrection, c'est vraiment l'apogée de l'évangile de Marc. Et c'est le cœur de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Donc, on va faire comme la semaine dernière. Notre déroulé, ça va être le suivant. On va d'abord analyser un peu le texte. On va en tirer l'idée centrale. Et puis ensuite, on va faire un lien avec l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et puis, on va réfléchir à des applications pour nos vies. Mais avant de commencer, avant de se plonger dans le texte, on va devoir faire un petit point sur ce qu'on appelle la finale de Marc. Alors, je ne parle pas de finale du monde. je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce sujet. En fait, c'est le passage vraiment qui clôture l'évangile. Donc, c'est au chapitre 16, c'est les versets 9 à 20. Et c'est un sujet qui est assez peu abordé finalement dans les églises. Mais ce passage, c'est un des deux seuls passages de tout le Nouveau Testament qui, au niveau des manuscrits, pose question, pose problème. Donc, il y a ce passage et un passage dans Jean. Et quand je parle de passage, c'est vraiment passage complet. Parce que des fois, on a des petites erreurs de scribe, mais qui sont anecdotiques. Mais là, c'est vraiment un passage entier. Mais au final, c'est quand même très peu compte tenu du grand nombre de la taille déjà du Nouveau Testament, et puis du grand nombre de manuscrits qu'on a. On a plus de 5000 manuscrits pour tout le Nouveau Testament. Donc on a seulement deux passages qui posent problème. Et du coup, c'est quoi ce problème? Eh bien, c'est que dans les sources manuscrites qui sont à notre disposition aujourd'hui, il y a plusieurs finales différentes, en fait. Et donc le sujet, il est connu depuis très très longtemps, il a suscité des débats et des interrogations très tôt, on a des traces de ça au moins depuis le 3e siècle après Jésus-Christ. Donc, pour résumer, d'abord on a une majorité de manuscrits qui se terminent avec ces versets 9 à 20 au chapitre 16. C'est ce qu'on appelle la finale longue. Et le manuscrit le plus ancien qu'on a, il date du 5e siècle, sauf que le texte déjà, il est que dans la marge. C'est déjà un peu étonnant. Cela étant, on a quand même des indices que ces versets du chapitre 16, des versets de la famille, ils étaient connus déjà chez certains pères de l'Église dès le 2e siècle. Sauf qu'aujourd'hui, les spécialistes pensent que c'est une période à laquelle ces versets ont été ajoutés, en fait. Et même si on a une majorité de manuscrits qui portent ces versets 9 à 20, la quantité, ça ne veut pas forcément dire toujours la qualité. Et aujourd'hui, les manuscrits complets, les plus anciens et les plus qualitatifs qu'on a à notre disposition, ils portent une finale qu'on appelle « courte ». Cette finale courte, elle s'arrête au verset 8 du chapitre 16, pardon. Donc, finale longue, finale courte. À côté de ça, il y a aussi d'autres variantes qui viennent s'y ajouter et qui sont moins connues. Par exemple, je vous en lis une qu'on trouve dans un manuscrit du 5e siècle qui ajoute les mots suivants au verset 8. Donc, les femmes, annoncèrent brièvement à l'entourage de Pierre tout ce qui leur avait été ordonné. Et après cela, Jésus lui-même fut envoyé à travers eux, de l'Est jusqu'à l'Ouest, le message sacré et incorruptible du salut éternel. Donc on a un manuscrit qui porte cette fin. Et puis on a aussi des manuscrits qui vont combiner ces différentes finales. Et même on a un manuscrit avec un texte un peu bizarre, probablement gnostique. Mais toutes ces variantes-là, les spécialistes aujourd'hui considèrent qu'elles ne font pas partie de la parole de Dieu, qu'elles ne sont pas canoniques, donc on va les laisser de côté. On est vraiment certain que c'est pas des originaux, ça n'a pas été rédigé par Marc. Donc on va s'arrêter juste sur ces deux finales longues et courtes. La finale longue, donc les versets 9 à 20, si vous avez une traduction récente, vous observerez peut-être qu'elle est entre crochets, pour nous indiquer justement les débats qu'il y a autour de cette session. Puis des fois, on a des traductions qui vont ajouter une note d'avertissement en bas de page, par exemple. Et effectivement, aujourd'hui, on a une grande majorité, ça va peut-être surprendre, une grande majorité des spécialistes, des théologiens, qui estiment que dans cette section, le vocabulaire, le thème, les thèmes qui sont abordés, même le style d'écriture, ça ne correspond pas au style de Marc. Et ça ne correspond pas au reste de ce qu'on a dans l'Évangile. Et pour vous citer par exemple deux noms connus qui soutiennent cette position, il y a John MacArthur, Donald Carson, il y a le professeur Dominique Anger qui donne des cours à notre pasteur aussi. Et puis, donc comme je vous disais, les deux manuscrits grecs les plus anciens, les plus importants et qui sont complets, qu'on connaît, il s'arrête à Marc 16, verset 8, avec cette finale courte. Donc je vous donne les noms, hein, c'est des noms un peu barbares, c'est le Codex Sinaiticus et le Codex Vaticanus. Et en plus de ça, on a d'autres éléments qui viennent s'ajouter, c'est qu'au 2e et 3e siècle, on a les pères de l'Église, Clément d'Alexandrie, Origène, qui ne connaissaient pas cette finale langue. Et puis on a aussi des théologiens antiques, donc Eusèbe, Jérôme, qui constataient déjà à leur époque que les meilleurs manuscrits à leur disposition ne contenaient pas cette finale langue. Et puis enfin, on a de nombreux manuscrits qui contiennent ces versets 9 à 20, mais qui sont avec une note des copistes qui indique leurs doutes sur ce passage. Alors, je ne vais pas aller trop loin dans les détails, mais dans le grec, il y a une quinzaine d'expressions quand même, au moins une quinzaine d'expressions ou de mots qu'on ne retrouve pas ailleurs dans Marc. Et il y a des incohérences. La liaison entre les versets 8 et 9, elle n'est pas naturelle. Il y a un certain nombre de choses qui posent question. Donc aujourd'hui, ce qu'on suppose, probablement, c'est que cette finale longue qui est dans nos Bibles, à partir du verset 9, soit c'est un ajout, que c'est un ajout probablement initié par un copiste qui a été perturbé parce qu'au verset 8, ça se finit de manière un peu abrupte. Et du coup, c'est très différent d'ailleurs de ce qu'on a dans les autres évangiles. Et donc ce copiste, il serait basé sur les autres évangiles et sur le livre des Actes pour rédiger sa finale longue. Et puis une autre question qui surgit quand on aborde ce sujet, c'est si l'évangile de Marc il s'arrête au verset 8, du coup, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une vraie finale que Marc a écrit, qui allait au-delà et qui a été perdue ? Ou est-ce que Marc n'a pas pu finir son évangile ? Ou encore est-ce qu'il s'est volontairement arrêté au verset 8 ? Donc là-dessus, il y a débat aujourd'hui, et les commentateurs, ils penchent soit pour une finale qui s'est perdue, soit pour un arrêt volontaire de Marc au verset 8. Et aujourd'hui, c'est quand même l'option qui est privilégiée parce que ça correspondrait bien au style de Marc. Dans son évangile, il fait assez peu de commentaires, il laisse le lecteur réfléchir, c'est assez percutant. Et une conclusion un peu énigmatique, ça irait bien dans le sens de son objectif. Alors moi, je ne sais pas quelle est la plus plausible de ces options. Mais je sais une chose, après tout ce que je vous ai dit, c'est que Dieu, il garde sa parole. Et il nous le dit, hein, d'ailleurs. Hein. Mais avant de poursuivre... Donc je ne veux pas vous recommander de considérer cette finale longue, donc les versets 9 à 20 du chapitre 16, avec prudence. Et je vais vous rassurer aussi, mais d'abord la prudence. Donc l'appartenance au canon biblique, comme je vous ai dit, elle est questionnée depuis très longtemps, et aujourd'hui, la majorité des commentateurs, des spécialistes, considèrent que ça ne fait pas partie de la parole de Dieu. Alors ça n'y enlève pas une vraie valeur historique, hein, mais pour eux, ce n'est pas un texte qui doit avoir autorité dans nos vies. Et donc il faut y porter un regard prudent. Donc, moi, l'appel à la prudence, c'est vraiment de prendre du recul, de ne pas chercher à en tirer une doctrine essentielle, de ne pas chercher à en tirer des règles de vie. Mais je veux aussi vous rassurer. Pourquoi ? Parce que quand on examine le contenu de cette section, hein, il n'y a pas de contradiction avec le reste de la parole. Le texte est quand même cohérent avec le reste des Écritures. Et puis, il n'y a pas non plus d'éléments vraiment fondamentaux. C'est pas l'Évangile ne s'ancre pas dans cette section. Et l'absence de ces sections ne remettrait pas en cause le reste des Écritures. Donc il ne faut pas être ébranlé. Aujourd'hui, aucune des erreurs de copiste dont on a connaissance dans l'entièreté des Écritures n'a jamais atteint l'intégrité du message de l'Évangile. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Donc ce soir, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, je vais essayer de vous montrer en quoi cette fin au verset 8, un peu abrupte, elle se suffirait à elle-même, au regard de la perspective de Marc. Et puis ensuite, on va quand même aborder la finale longue, mais on va se contenter de simplement l'analyser avec une certaine prise de distance. Donc on va commencer, et je vous propose qu'on prenne donc l'évangile de Marc au chapitre 15, à partir du verset 42, et jusqu'au chapitre 16, verset 8. Si quelqu'un veut bien le lire.
Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Joseph, regardaient où on le mettait. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'a mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur espoir.
Merci. Donc là, on débute notre récit, on voit que le temps presse pour l'ensevelissement de Jésus, et pour deux raisons. D'abord parce que la loi juive, elle impose de ne pas laisser pendu au bois un condamné à mort. Donc là, on peut prendre, par exemple, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 21, les versets 22 à 23, si quelqu'un veut bien le lire. Donc Deutéronome 21, 22 à 23.
Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage.
Merci. Donc on voit effectivement que la loi juive impose de ne pas laisser pendu au bois le condamné. Et puis ensuite, Marc nous indique que le sabbat approche, et on sait que durant le sabbat, l'activité est proscrite. Et là, on voit survenir un disciple improbable, alors que les onze apôtres sont toujours absents, hein, on l'avait vu la semaine dernière, ils étaient déjà absents du récit Marc, et là, ils sont encore absents. Et on voit survenir ce disciple improbable, c'est Joseph d'Arimathée. Donc Joseph d'Arimathée, c'est un membre du conseil, le Sanhédrin, hein, c'est les autorités juives. Et contrairement au reste du conseil, il n'a pas pris position pour condamner Jésus. Et donc, contrairement aux onze, ce disciple fait preuve d'un certain courage parce qu'il va voir les autorités romaines. Et c'est une vraie prise de risque pour lui parce que s'il est identifié comme un disciple de Jésus, on a vu la semaine dernière combien l'opposition à Jésus elle était forte. Et considérant sa position au conseil, c'est quand même une vraie prise de risque. Et un détail intéressant, c'est qu'on voit Pilate qui s'étonne de voir Jésus déjà mort. Alors c'est vrai que la crucifixion, elle pouvait durer longtemps, hein, parfois jusqu'à plusieurs jours, selon comment le crucifié avait été cloué ou attaché, parce que des fois on les attachait sans les clouer. Donc ça pouvait durer jusqu'à plusieurs jours, et la suffocation a été vraiment progressive. Et d'ailleurs, on le voit dans un autre évangile, des fois les soldats devaient briser les jambes des condamnés pour hâter leur mort. Et là, ça n'a pas été le cas de Jésus en l'occurrence. Mais si on prend un petit peu de recul, alors Pilate il semble oublier les mauvais traitements aussi qui ont été infligés à Jésus. Hein. Il est surpris, mais en même temps, les soldats, on l'avait vu avec Georges, hein, les soldats ont torturé Jésus, hein, ils l'ont fouetté extrêmement violemment. Et Pilate, ça lui passe complètement au-dessus. Mais si on prend la hauteur, on peut discerner la souveraineté divine, parce qu'en réalité, on a vu que la mort de Jésus, elle avait été vraiment spectaculaire. Simplement, Jésus, il est mort au moment fixé. Il est mort quand Dieu l'a fixé, ni plus ni moins. Et le fait que Pilate, il accepte de rendre le corps, alors ça peut poser question, mais c'est crédible, parce que déjà, il connaissait les pratiques juives, il sait que le sabbat approche, et puis c'est vrai qu'il donne le corps à quelqu'un qui n'est pas de la famille de Jésus, mais ça, il y a probablement deux raisons. La première, c'est que, la mère de Jésus, vraisemblablement, elle n'est pas en état de se présenter devant lui. Hein. Les frères de Jésus, ils sont absents. Et puis, la deuxième raison, c'est que Pilate, il avait déjà pas pris au sérieux l'acte de condamnation. Si on avait eu, il savait avant même de livrer Jésus à la crucifixion que Jésus était innocent, hein, le texte le dit. Et pourtant, il l'a livré à la mort, hein, sans trop de scrupules. Il a un peu freiné, il a essayé, mais quand il a vu que les Juifs voulaient sa mort, il n'a pas trop lutté quand même. Et là, c'est pareil, en fait. Il ne prend pas au sérieux l'inhumation de Jésus, il l'a confié à une personne tierce, sans trop se poser de questions. En fait, il est probablement heureux de pouvoir se débarrasser de cette affaire. On voit vraiment son mépris, en fait. Hein. Et puis, après ça, on observe un accomplissement prophétique important. Ça, c'est au verset 46. Parce qu'il y a le corps de Jésus qui est placé dans un tombeau taillé à même la roche. Et un tombeau qui était taillé dans la roche, à l'époque, c'était un tombeau qui coûtait une très forte somme d'argent. Contrairement aux personnes les plus pauvres qui étaient ensevelies en terre, hein, les plus riches, souvent, ils payaient de leur poche pour creuser un tombeau dans la roche. Et à ce propos, on peut lire Ésaïe 53 au verset 9, si quelqu'un veut bien le lire.
Il lui donna son sépulcre avec les méchants, mais il a été avec le riche dans sa mort, parce qu'il n'avait fait aucune violence et qu'il n'y avait pas de fraude dans sa bouche.
Voilà, on l'a mis avec le riche. Et Dieu accomplit sa parole, parce que si Joseph n'était pas intervenu à ce moment-là, le corps, il aurait probablement été mis dans une fosse commune. C'est ce qu'on faisait avec les condamnés à mort. Donc là, l'intervention de Joseph est vraiment déterminante ici. Cet événement, l'ensevelissement, il a aussi de l'importance pour répondre à ceux qui prétendent, encore aujourd'hui, que Jésus ne serait pas mort. Et Marc, il mentionne d'ailleurs deux témoins, c'est les Marie de Magdala et Marie, la mère de Joseph, qui sont restés et qui observent. Et ces femmes, elles ont vraiment un rôle important dans cette section du récit, parce qu'on les voit, ça clôture en fait le récit de la crucifixion, de la mort de Jésus, et puis ça encadre aussi la mise au tombeau, au verset 40 et au verset 47. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Stéphane Corbel, quand il était venu et qu'il avait prêché, il nous avait parlé du courage de ces femmes, de leur attachement au Seigneur. Et c'est vrai que c'est assez frappant. On a vu Joseph d'Arimathée, là on voit ces femmes, et les 11, eux, ils sont toujours absents. On les voit pas. Et à partir de ce moment dans le récit, il y a quelques différences assez notables entre les quatre évangiles. Et c'est normal, hein, c'est un récit qui est formé de plusieurs, d'un patchwork de témoignages. Ici, on ne va pas forcément chercher à définir la chronologie exacte, comment les événements s'imbriquent. On va pas essayer de réconcilier les différents détails. C'est parfois utile, hein, mais c'est pas forcément l'approche des auteurs du Proche-Orient ancien. Et Marc, là, en fait, il nous donne vraiment ce dont on a besoin pour comprendre son récit et l'enseignement qui recèle. Donc, on va vraiment se concentrer sur l'évangile de Marc. Donc, on observe ces femmes qui se rendent au tombeau très tôt le matin. Et en fait, elles ont l'intention de préparer le corps de Jésus et de l'embaumer correctement, parce que Joseph, il a quand même agi dans l'urgence. Et en fait, on est dans le début de la période de deuil, qui, dans la culture juive, va durer une semaine après les funérailles. Et donc on voit encore cet attachement, ce soin de ces femmes. Elles sont vraiment déterminées à honorer leur Seigneur jusqu'au bout, y compris dans le deuil. Et sur la route, on voit qu'elles ont une préoccupation pratique, c'est concerne la lourde pierre hein, qui est roulée devant l'entrée du tombeau, parce qu'elles savent bien qu'elles ne pourront pas la rouler toutes seules, toutes les deux, elles n'auront pas la force, et elles ne savent pas trop à qui elles vont pouvoir demander. Et puis en plus de ça, c'est aussi une prise de risque, le fait qu'elles se rendent au tombeau, parce qu'on ne rouvrait pas un tombeau sans une bonne raison à l'époque, hein, alors ne serait-ce qu'à cause des risques de maladie, mais il y a aussi les questions d'impureté rituelle, voilà. Et donc, il y a quand même un certain courage quand elles se rendent au tombeau. Et là, on a un premier miracle, c'est que la pierre, elle a été roulée. Le tombeau, il est ouvert. Alors Marc ne dit absolument rien des circonstances de cet événement, mais on sait que, à lui-même, hein, ouvrir un tel tombeau, il faudrait plusieurs personnes, ça demande de la force. Marc ne mentionne rien. On comprend que la pierre, elle n'a pas roulé par des moyens naturels. Et en fait, il veut susciter les interrogations du lecteur. Pourquoi cette pierre, elle a été roulée? Est-ce que c'est pour que Jésus puisse sortir? En fait, non. Les lecteurs, ils savent que Jésus, il n'avait pas besoin de rouler la pierre pour sortir. En fait, si le tombeau, il est ouvert, c'est simplement pour que les femmes, elles puissent entrer et voir. Et voir quoi? Voir que le tombeau est vide. Presque vide. En fait, on a les femmes qui rentrent dans le tombeau, elles tombent nez à nez avec ce jeune homme assis, qui est vêtu d'une robe blanche. Alors, elles sont terrifiées, hein, et on le comprend. Et si on nous met un peu dans leur peau, hein, se rendre dans un tombeau, déjà, c'est pas l'expérience la plus plaisante. Et en plus de ça, bah, tomber nez à nez avec quelqu'un dans ce tombeau, c'est pas tout à fait ce qu'elle pensait vivre. Et un détail intéressant, c'est que cet homme, il porte une robe blanche. Donc voilà, Marc veut encore qu'on se creuse un peu la tête. Et le mot grec qui est traduit par robe blanche, alors je sais pas, dans d'autres traductions, peut-être c'est un autre mot, mais c'est vraiment l'idée de quelque chose de très brillant. Et dans le Nouveau Testament, en général, c'est employé pour parler du vêtement ou de l'apparence des anges. Et donc Marc indique cela pour nous montrer que c'est un ange, effectivement. Et donc l'ange, il va les rassurer, et puis ensuite il va leur délivrer un message fabuleux. C'est que Jésus de Nazareth a été crucifié et a ressuscité des morts. Et en fait, Dieu a envoyé l'ange pour expliquer ce qui s'est passé. Et donc pour appuyer son propos, il leur montre l'endroit où le corps avait été déposé. Et si vous vous rappelez, on l'a vu, hein, les femmes, elles étaient présentes lors de la mise au tombeau, on l'a vu au verset 47, et elles regardaient où l'on déposait Jésus. Donc, pourquoi c'est important? Parce que dans les tombeaux à l'époque, il pouvait y avoir plusieurs emplacements pour le corps. Donc elles savaient exactement où le corps de leur Seigneur a été mis. L'ange leur montre, le corps n'est plus là. Donc l'ange ensuite, il leur ordonne d'aller annoncer aux autres disciples cette nouvelle, et il leur précise que Jésus les précède en Galilée. Alors, pourquoi la Galilée? Encore une fois, Jésus l'avait annoncé aux disciples, l'ange le dit. Ça, c'est dans Marc 14, 28, sur le mont des Oliviers, quand Jésus avertissait les disciples qu'ils allaient être dispersés, il les avertissait de leur échec, et il leur a dit, après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que ça va aussi dans le sens d'une résurrection physique. Un esprit ne précède personne dans un temps et un lieu précis. Et le verbe, c'est vraiment « aller devant », littéralement, hein, dans le grec. Et on peut remarquer aussi la sollicitude, l'amour du Seigneur à l'égard de Pierre et des disciples dans les propos de l'ange. Pourquoi est-ce que l'ange y précise que les femmes doivent le dire à ses disciples et à Pierre? Et il mentionne nommément Pierre. Et on voit que le Seigneur, il aime ses disciples et il les aime malgré leur échec et il aime celui qu'il a directement renié. On l'avait vu avec Georges. Hein. Donc malgré leur échec, malgré leur absence, Jésus il ne les a pas oubliés. Il n'en a pas fini avec eux. Cela étant, on a vu que les femmes, donc elles avaient été courageuses, elles sont fidèles, elles suivent Jésus depuis le début, elles sont allées jusqu'au bout finalement. Et malgré cette fidélité, cet attachement exemplaire, qui va plus loin que ce que les onze ont fait, eh bien, elles vont vaciller à ce moment-là. Donc le tombeau vide, l'apparition d'un ange, et cet ange en plus qui leur annonce la résurrection de Jésus. Alors, je le reprécise, on l'avait vu lors d'une de nos études, hein, mais la résurrection, une résurrection avant la fin des temps, dans la culture juive, c'était un concept totalement radicalement nouveau, hein, c'était incompréhensible. Et donc toutes ces choses-là mises bout à bout, c'est trop. Malgré le fait qu'il y a eu la résurrection de Lazare, malgré les prophéties du Seigneur qui annonçaient sa résurrection, c'est trop pour elles. Le texte dit, elles sont terrifiées, elles sont bouleversées, elles ne comprennent pas. Elles doivent se demander où est le corps. Et Marc nous dit, et c'est assez intriguant, dans un premier temps, il nous dit qu'elles ne vont rien dire à personne. Et ça, c'est assez différent des autres évangiles, on les voit aller annoncer la nouvelle. Mais en fait, dans un premier temps, elles ne vont rien dire à personne. Et en fait, s'il indique ça, c'est pas pour rien. En fait, encore une fois, c'est volontaire. Il nous laisse sur un constat d'échec des disciples du Seigneur. Et en fait, il faut se rappeler à qui il écrit. Il écrit à des chrétiens qui sont probablement persécutés, des chrétiens dont la foi elle est mise à l'épreuve. Et en fait, il nous montre encore une fois que même celles et ceux qui côtoyaient le Seigneur, ben, ils ont succombé à la crainte et à l'échec. Mais, en réalité, ça ne s'arrête pas là. C'est ce qu'on va voir. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais quand même relever un contraste assez fort avec le chapitre précédent. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait vu vraiment tout ce vacarme de moquerie qui s'abattait sur Jésus, toute cette violence qui s'exerçait contre notre Seigneur. Et là, finalement, il y a un contraste, c'est presque, j'ai envie de dire, presque le calme. Le tombeau, il est vide, les moqueurs, on ne les entend plus. Et Marc, en fait, il nous présente ce fait. Le tombeau est vide. Où est le corps de Jésus? Et à cette question, les moqueurs, ils ne répondraient pas, ils n'auraient pas de réponse. Pourquoi? Parce que l'explication, la seule explication la plus convaincante, c'est la résurrection. Et en fait, comme les autres évangélistes, Marc, s'il avait voulu inventer un récit, il n'aurait pas utilisé le témoignage de ses femmes. Hein, à l'époque, la parole des femmes avait peu de valeur dans la culture de l'époque. Et en fait, ce tombeau vide, c'est déjà en soi un témoignage de la victoire remportée sur la mort. Et au milieu des persécutions, pour les tout premiers chrétiens, c'était un encouragement formidable. Si je reviens sur cette finale courte au verset 8, c'est ces femmes apeurées, on s'arrête là-dessus, le tombeau vide, les femmes apeurées. Pourquoi ça nous interpelle? Ça correspond vraiment au style de Marc, c'est très dynamique, il y a de l'action, mais il y a aussi du suspense, il veut susciter notre intérêt en fait. Et en fait, on voit ces femmes craintives, on voit ce tombeau vide et on se dit, ça ne peut pas s'arrêter là. Qu'est-ce que Dieu va faire? Et en fait, les premiers destinataires de l'évangile, ils peuvent le deviner. Pourquoi? Parce qu'ils font partie justement de cette jeune église du Christ qui est née au milieu de l'opposition, au milieu des persécutions. Et cette église, elle est née comment? Elle est née par l'intermédiaire de ses disciples qui étaient apeurés et craintifs. que ce soit les femmes, que ce soit les 11 qui ne sont pas là. Et en fait, Dieu, on n'avait pas fini avec eux. C'est vraiment un encouragement puissant hein, pour les chrétiens. Ça nous montre que l'Esprit de Dieu n'est aucunement limité par nos craintes, par nos faiblesses. Et puis on peut repenser aussi à l'injonction de l'ange au verset 7, quand il dit aux femmes « Allez le dire à ses disciples ». Et là, Marc, il nous pousse à l'action, il nous dit « Une telle nouvelle ne tombe au vide, on ne peut pas garder ça pour nous ». La question que la parole elle nous laisse ici, c'est la suivante. Le tombeau est vide, comment on répond ? Est-ce qu'on répond avec foi et confiance, ou avec crainte et tremblement ? Et l'ange, il nous donne la réponse, il dit « Soyez sans crainte ». Et donc c'est l'idée centrale de notre passage, « Soyons sans crainte, sinon devant Dieu, le tombeau est vide et Jésus est ressuscité ». Alors pour connecter ça avec vraiment la bonne nouvelle, l'évangile, hein, comme je l'ai dit, hein, quel témoignage est plus réconfortant que le tombeau vide ? Ce tombeau vide, il atteste de la victoire du Seigneur, qui a payé la dette de notre péché sur la croix, et il atteste que Jésus est bien le Fils de Dieu, qui nous devance auprès du Père. Ça, on peut le lire, on ne va pas le prendre, on peut le lire dans Romains 1, au verset 2 à 4. Et un jour, on ressuscitera tous, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour le jugement. Avec Adam et la chute, est venue la mort, et avec Jésus et sa victoire, est venue la résurrection des morts. Et en fait, en prouvant la résurrection du Fils de l'homme, ce témoignage des tout premiers disciples, hein, vient confirmer à nos cœurs que si la mort, c'est un adversaire qui est connu, c'est aussi un adversaire qui est vaincu. Il n'y a aucune autre religion qui est en mesure de faire ça. Alors pour ce qui est des applications pour nous aujourd'hui, la première application, c'est une exhortation, un appel à prendre position. En fait, en finissant sur ce tombeau vide, l'évangile de Marc, il nous invite en quelque sorte à rentrer dans le récit. Voici ce qu'il nous dit. Si tu n'acceptes pas personnellement que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu souffrant et ressuscité, pour le salut des pécheurs, alors dans le temps présent, tout s'arrête au tombeau vide. Et tu ne verras pas le Seigneur dans sa gloire, sauf au jour du jugement, quand il sera trop tard. Et donc il crie à Dieu, c'est un appel, crie à Dieu, parce que ce tombeau vide nous rappelle aussi que le jugement de Dieu tombera sur tout être humain qui ne se sera pas confié en Christ. Et c'est aussi une invitation à rejoindre celles et ceux qui se réjouissent d'ores et déjà en contemplant, comme dans un miroir, la gloire du Christ, de notre Seigneur bien-aimé, à chaque lecture de la Bible, chaque lecture de sa parole. Deuxième application, c'est une invitation à prier pour que la crainte ne nous entrave pas, et pour que le Seigneur nous rende capable d'annoncer fidèlement sa victoire remportée sur la mort. Et on voit ces femmes qui sont figées par la crainte, mais on sait aussi que ça ne s'est pas arrêté là et qu'ensuite elles ont annoncé la résurrection. Et on doit se rappeler aussi du courage de Joseph, qui a eu le contact des autorités romaines, et malgré tout la fidélité de ces femmes, hein, qui sont restées jusqu'à l'ensevelissement et qui sont revenues malgré les risques. Mais en même temps, et ça c'est l'application suivante, on voit que les 11 ils sont absents jusqu'au bout du récit. On voit que les femmes ont eu peur. Et donc, ne nous flagellons pas pour nos échecs. Pourquoi ? Parce que Dieu fait grâce. Et on le voit avec les paroles de l'ange. Dans son amour, Dieu se préoccupait de Pierre, il se préoccupait des 12, malgré leurs échecs, malgré leur absence. Et donc, aujourd'hui encore, Dieu, il se préoccupe de nous, il prend soin de nous, même dans nos pires moments. Et donc, rappelons-nous-en, toutes les fois où on trébuche, et écoutons le Seigneur. C'est lui qui pardonne, c'est lui qui nous relève, c'est lui qui nous restaure. Enfin, dernière application, est-ce qu'on a la conviction que la résurrection, c'est la meilleure explication au tombeau vide ? Les disciples, qui étaient apeurés, dispersés, on ne les voit même pas, ils n'auraient jamais pu voler le corps, les femmes encore moins, et puis à l'époque, donc un récit qui aurait été monté de toutes pièces, ils n'auraient jamais choisi de s'appuyer sur la parole et sur le témoignage de femmes. Et puis en plus, c'est la meilleure explication à l'essor de l'Église. Peu de temps après, on voit un revirement total. Les apôtres se sont transformés. Ils vont annoncer l'Évangile avec audace, sans crainte. En fait, tout ça, c'est le fruit de la résurrection, de l'ascension et de la venue de l'Esprit à la Pentecôte. Et puis enfin, dernièrement, on l'a vu, hein, ce concept de résurrection, c'est vraiment une rupture totale dans la culture juive de l'époque. Et c'est une rupture que des juifs n'auraient pas pu défendre sans avoir des preuves irréfutables et vraiment solides. Donc on sait que la foi chrétienne, elle nécessite l'action du Saint-Esprit dans les cœurs, mais pour autant elle n'est pas absurde et irrationnelle. Et le tombeau vide, c'est un fait historique qui met les historiens honnêtes en difficulté. Aujourd'hui, il faut savoir que Même chez les historiens athées, il y a une partie des historiens qui reconnaissent ce fait du tombeau vide, et ils n'ont pas d'explication pour ça. Donc voilà, on a vu un peu cette finale courte. Alors on va quand même donc prendre la finale longue, les versets 9 à 20, si quelqu'un veut bien les lire.
Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elles l'avaient vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qu'ils ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait par la parole par les miracles qui l'accompagnaient. »
Merci. Alors, si vous regardez bien le verset 9, il y a une petite incohérence qu'on peut quand même voir, même si on n'a pas accès au grec. Hein. C'est le texte présente Marie de Magdala. Il dit Marie de Magdala, dont il avait chassé cette démon. Et ça fait une rupture avec le reste du récit parce que Marie de Magdala, elle est déjà mentionnée avant et il n'y a pas besoin de la représenter. Et il nous précise quand même Marie de Magdala, dont il avait chassé cette démon. Donc c'est quelque chose d'assez étonnant. Alors ensuite, si on prend les éléments suivants, ça nous rappelle en grande partie ce qu'on peut lire dans les autres évangiles au début des actes. On voit l'incrédulité des disciples face au récit de Marie. Et puis ensuite, on voit l'apparition de Jésus à deux disciples qui se rendent à la campagne. Probablement, c'est les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Hein. On a encore l'incrédulité des autres disciples face au récit de ces témoins. Et puis, on a l'apparition de Jésus aux 11 apôtres. Ils leur reprochent leur incrédulité, la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'ont pas cru le récit des témoins précédents. Donc, on retrouve tout de même, là, c'est quand même un thème de Marc, hein, l'incrédulité des disciples, hein, leur échec. Et ensuite, dans la section qui débute au verset 15, on observe l'envoi en mission que Jésus va adresser aux 11. Jésus mentionne la foi, le baptême, comme témoignage de. Le baptême qui témoigne de cette foi, hein, c'est comme des marqueurs du salut. Et puis il nous indique également que ceux qui n'auront pas la foi seront condamnés. Et après ça, on a un passage des versets 17 à 18 qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a été souvent utilisé à tort et à travers, parfois mal interprété. Et dans certains milieux, il est utilisé aussi pour justifier des pratiques spirituelles qui sont discutables et qui sont parfois même dangereuses. Je vais m'arrêter sur ce passage parce qu'il faut quand même tenir compte du contexte et du genre littéraire de notre passage, de notre texte. En fait, les évangiles, c'est des textes narratifs. Et quand on lit un texte narratif dans la Bible, on doit prendre garde à ne pas s'appliquer immédiatement et directement à nos vies. Il y a 2 millénaires qui nous séparent de ce texte, hein. Et en plus, on n'est pas autant l'Église primitive, et ce n'est pas des prescriptions, ce n'est pas des commandements. Maintenant, si on observe le contexte, Jésus parle des signes qui accompagnent ceux qui auront cru. On peut se poser la question de qui sont ceux qui auront cru. Alors, dans le grec, déjà, la forme verbale, elle pourrait se traduire littéralement par « ayant cru ». C'est vrai que nos traductions mettent souvent au futur, mais littéralement, c'est « ayant cru », ce « ayant cru ». Et si on relit le verset 14, on voit qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que quand il apparaît aux 11, on l'a vu, hein, il leur reproche leur incrédulité, la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Et donc en fait, dans son envoi en mission, Jésus fait un peu un clin d'œil à ce qui vient de se passer. Il évoque implicitement les 11 qui n'ont pas cru, et donc par ricochet aussi les tout premiers disciples de l'Église naissance, ils ne parlent pas à nous aujourd'hui. Et si on regarde bien, tous ces signes, ils correspondent, à l'exception du breuvage mortel, hein, ils correspondent à des miracles qu'on trouve dans le livre des Actes, justement, et qui sont opérés exactement par la génération des apôtres. Ensuite, si on poursuit notre texte, au verset 19, on a une mention de l'ascension du Seigneur au ciel, pour prendre place à la droite de Dieu le Père, C'est aussi un élément qui atteste clairement sa victoire. Et enfin, au verset 20, on a l'Église naissante qui se met à l'œuvre comme dans les Actes, avec l'objectif des signes qui est précisé. Les signes viennent confirmer, viennent attester la prédication de la parole par les apôtres. Et donc, en fait, ils ont vraiment cet objectif, ils participent de l'œuvre de fondation et d'expansion de l'Église naissante. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est assez succinct, je ne vais pas aller plus loin sur cette section. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va reprendre un petit peu tout notre parcours de l'évangile de Marc. Je vais essayer de vous faire une synthèse. Je vous ai listé un certain nombre de passages que je reprendrai. Mais avant d'aller plus loin, peut-être si vous avez des remarques ou des questions sur ce qu'on vient de voir, on peut prendre peut-être quelques minutes, en particulier sur cette finale, peut-être que ça suscite des questions. Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Alors, effectivement, il y a eu un principe de prudence qui a prévalu pendant très longtemps. Il y a aussi l'Église catholique qui, à un certain moment, a dit c'est canonique. Ils ont décidé de trancher l'ensemble de la canonicité. Mais c'est surtout le principe de prudence. Et puis, il y a aussi un autre élément, c'est que les découvertes ont été faites. La recherche, les études textuelles ont progressé aussi. Petit à petit, au fil du temps, c'est pas un consensus, il y a encore des gens qui défendent que c'est un texte qui fait partie de la parole. Je pense à un théologien qui s'appelle Bruce qui considère que Marc n'a pas écrit cette section, mais qui considère que c'est quand même un texte canonique, qui dit ça fait partie de la parole de Dieu, même si Marc ne l'a pas écrit. Donc vous voyez, il y a quand même encore un petit peu débat, mais aujourd'hui il y a quand même une majorité vraiment très forte de théologiens et de spécialistes qui considèrent que non, ça n'a pas été écrit par Marc. Mais voilà, il y a eu débat tout au long de l'histoire de l'Église, et pendant longtemps, c'est ce principe de prudence qui a prévalu, et on a laissé le texte, et encore aujourd'hui, on voit les éditions, moi j'ai c'est la seconde 21, qui est quand même récente, et ils le mettent quand même s'ils le mettent entre crochets, hein, par principe de prudence, parce qu'effectivement, pendant longtemps, l'Église l'a conservé.
Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, en fait, c'est un débat qui est intéressant. Mais moi, je trouve que le plus important, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire que même si c'est pas Marc lui-même qui l'a écrit, en fait, moi, ça me choque pas parce qu'il y a, on voit, il y a des livres dont on se pose la question en dehors de l'évangile de Marc, où on sait que c'est. On se pose des questions sur le ou les auteurs. Et on se rend compte qu'en fait, en lisant ces livres-là, non seulement ça ne contredit pas les autres parties de la Bible, mais en revanche, ça les enrichit même. Et moi, je dirais que, en fait, le plus important, c'est vraiment de savoir que tout ce qui est écrit ici, c'est peut-être pas Marc lui-même, c'est peut-être un de ses disciples, c'est peut-être un de ses contemporains, mais tout ce qui est écrit là, on pourrait et on peut le retrouver ailleurs. Et ça, c'est très important parce que il y a des gens dont la foi a été ébranlée. Mmh. Simplement parce que à un moment donné, ils se sont posé la question, mais est-ce que je suis vraiment en train de lire la parole de Dieu? Notamment, je pense par exemple dans le débat par rapport au récit de la Genèse, par exemple. Vous avez l'impression, si vous lisez bien ce récit de la Genèse, vous avez l'impression qu'il y a deux écrits totalement parallèles, un premier écrit qui s'arrêterait à Genèse 2:2, et un deuxième écrit qui va être de Genèse 2:3 jusqu'à un peu plus loin, où on voit qu'on répète le récit de la création. On s'est dit, mais à quoi bon, hein? Un peu comme tout ce que tu disais, pourquoi, à quoi bon?
Oui, juste, je me permets, ouais. il y a un élément intéressant dans ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a le style aussi, le style littéraire. Là, par exemple, ce que tu décris, c'est un procédé littéraire qu'on retrouve assez fréquemment dans la littérature hébraïque. Ouais. Le fait de reprendre, et c'est vrai que des fois, ça peut interpeller. Là, ce qui est quand même intéressant dans Marc, c'est qu'on a des manuscrits, effectivement, qui ne le comportent pas. Moi, je me contente d'appeler à la prudence, ouais. C'est-à-dire, ne jetons pas ces passages à la poubelle dans les balayants du revers de la main, mais soyons prudents, n'en tirons pas des doctrines.
Voilà.
Ce qui est sûr, c'est que même si ça ne faisait pas partie de la parole, c'est quand même des textes historiques qui sont fiables. C'est-à-dire que si vous prenez ce récit, les versets 9 à 1 du chapitre 16, si vous prenez l'autre texte qui est controversé, c'est le récit de la femme adultère dans l'évangile de Jean. Aujourd'hui, les théologiens considèrent que c'est des récits qui sont des récits de la vie de Jésus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Simplement, le débat qui a lieu, c'est sur la question de vraiment, est-ce que ce texte fait partie de la parole de Dieu? La Genèse, pour le coup, il n'y a pas de débat, sinon par des personnes qui sont plutôt ce qu'on va appeler des libéraux, c'est-à-dire des gens qui remettent en question l'autorité des Écritures, mais au sein, en tout cas, des théologiens fidèles, si je peux dire, sur la Genèse, il n'y aura pas de remise en question. Alors que sur Marc, on a vraiment, comme je dis, une très très forte majorité, avec des gens comme John MacArthur. Donc soyons prudents. Voilà, j'aurais tendance à vraiment appeler à la prudence et à ne pas en tirer des règles pour nos vies, des doctrines importantes de ces passages-là.
Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'il les laisse, puisque les nouveaux écrits, bon, il y a toujours ce texte.
Oui, tout à fait. Il le laisse. On garde ce principe de précaution. On laisse le texte, on le met entre crochets, mais on le laisse. Si ça vous intéresse, j'ai mis deux photos. Vous pouvez venir à la fin me voir. Quelques détails intéressants pour ceux qui s'intéressent aux manuscrits et à ces choses-là.
Voilà. Moi, je trouve que c'est intéressant de le présenter, parce qu'il faut savoir que voilà, dans le milieu évangélique, en fait, c'est des choses qui sont très très débattues. Enfin, en tout cas qui sont très partagés. Moi, par exemple, quand j'ai étudié à la faculté de théologie le livre de Marc, on n'a pas étudié la finale de la langue. C'est-à-dire, il considérait que c'est juste pour, en fait, éveiller, alerter sur cette question-là. Et comme tu l'as très bien dit, en fait, ça ne remet rien en question. Et quelque part, moi, je trouve que ça nous éveille aussi sur l'importance de la parole de Dieu et de vraiment être convaincu que... En fait, comme il y a très très peu de textes qui sont concernés, il y a cette finale-là, puis il y a le passage qu'on utilisait dans Jean 8 sur jeter la première pierre. En fait, ça montre aussi que quelque part ça crédibilise la parole, en fait, parce que ça veut dire que tout peut être validé. Il y a ces morceaux-là sur lesquels, comme tu dis, il faut être prudent, mais on peut quand même s'en nourrir parce que ce sont des choses qui sont dans le même esprit, dans le même thème que le reste. Et c'est bien au moins de savoir que cette partie-là de la Bible, dans le monde chrétien évangélique, en fait, c'est vrai que nous, je pense que jusqu'à présent, dans les livres, on n'en avait pas parlé de ça. Donc c'est bien de savoir que c'est pas ça.
C'est d'autant plus important que dès le deuxième siècle, on voit qu'il y en a des textes qui ne contenaient pas ces éléments, alors que, par exemple, pour reprendre la Genèse, pour le coup, si on prend dès l'origine de l'Église, il n'y avait pas de débat. La Genèse, ce n'est pas un texte qui était débattu. Ce texte-là l'était déjà. Voilà. C'est quand même quelque chose qui est bon à savoir.
Moi, ce que je trouve quand même rassurant avec ça, ce que disait à Maurice quand on parlait un peu, c'est que, en fait, les progrès un peu de ce qu'on appelle la critique textuelle, c'est-à-dire que c'est dans la défaire qui travaille de façon très sérieuse pour étudier les textes, la parole, avec les originaux, les grecs et tout ça. Et dans toute la parole, on a deux passages où il y a un texte.
Tout
le reste, c'est cohérent. Et moi, je trouve ça, enfin, pour moi, personnellement, quand je vois ces histoires, ça me rassure encore plus sur la fiabilité de l'écriture.
Oui, tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou des questions? Ok. Ben dans ce cas, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit survol de l'évangile de Marc, là, parce qu'on est au terme de notre parcours. Donc, comme je l'ai dit, on l'a vu, hein, Marc, c'est quelqu'un qui écrivait à des non-juifs, probablement en prise avec la persécution. Et il a composé donc son évangile en grande partie d'après le récit de l'apôtre Pierre. Donc, pour reposer un petit peu le contexte. Et donc, dès le début de son évangile, Marc, il nous pose le cadre. Marc 1, verset 1, voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Marc, son but, c'est de nous présenter la bonne nouvelle, l'évangile, du dénommé Jésus, qui est le Christ, c'est-à-dire le Messie, le roi libérateur, et qui est aussi le fils de Dieu. Et ensuite, on a Jésus qui entre très très vite en scène, dès le chapitre 1, les versets 14 à 15. Jésus alla en Galilée, il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et disait, le moment est arrivé, et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Et ensuite, de même, très rapidement, Marc va nous décrire l'autorité totale de Jésus. Une autorité sur les maladies, une autorité pour pardonner les péchés, une autorité sur le sabbat, sur les esprits impurs, sur la nature, sur tous les éléments de la nature et sur la mort elle-même. Et pour tous, et en premier lieu pour les disciples, ça entraîne rapidement la question de son identité. Marc 4, verset 41, « Ils furent saisis d'une grande frayeur et se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. » Donc on voit les disciples secoués, mais qui est cet homme ? Et ils découvrent aussi que suivre un tel maître, eh bien, il y a un coût. Jésus ne laisse personne indifférent, il suscite souvent l'opposition, et ça va être un autre thème cher à Marc, hein, c'est ce coût de la vie de disciple. Mais heureusement, on voit aussi que Jésus, c'est le bon berger, celui qui enseigne, qui conduit patiemment, qui montre l'exemple. Et il se donne lui-même, il aime, il guérit, il accomplit des prodiges, il enseigne et il sert son prochain. Et en fait, en agissant ainsi, qu'est-ce qu'il fait ? Il annonce et il manifeste déjà le royaume à venir et toute l'espérance que ça implique. Et ses disciples, d'une certaine manière, sont vraiment privilégiés de prendre part à cela. Et pourtant, la plupart du temps, ils peinent à comprendre, leur cœur est dur. Et on voit quelque chose qui se développe en Marc 8, au verset 29, quand Jésus leur pose la question, « Et d'après vous, qui suis-je » leur demanda-t-il. Pierre lui répondit, « Tu es le Messie. » Donc une déclaration très forte de Pierre, mais là encore, en fait, les disciples n'ont pas tout saisi. Pourquoi ? Parce que oui, Jésus est bien le Messie, le roi, mais il ne l'est pas selon les conceptions humaines. Et en fait, il est bien plus qu'un homme. Et Jésus, à partir de ce moment-là, va commencer à parler de sa mission. Pourquoi ? Parce qu'il est là pour accomplir la bonne nouvelle du salut. Et on peut prendre Marc 10, 33 à 34, je vous lis. « Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir, et trois jours après, il ressuscitera. » Et ensuite, un peu plus loin dans le chapitre 10, il explique pourquoi, au verset 45, « En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Et là, on touche déjà au cœur de la bonne nouvelle dont parlait Marc. Pourtant, les disciples, ils restent dans l'incompréhension, ils n'ont toujours pas saisi qui était Jésus. Et en fait, c'est compréhensible, hein. Quel roi humain pourrait déclarer ce que Jésus a déclaré ? Et puis, qui pourrait offrir sa vie en rançon, en paiement pour une multitude ? Ils sont lents à comprendre, parfois ils sont effrayés, parfois ils sont orgueilleux, endurcis. En fait, les disciples de Jésus sont tout simplement humains. Sauf que Jésus, lui aussi, il est pleinement humain. Il est en train de les conduire sur un chemin nouveau qu'il leur ouvre lui-même, c'est le chemin du serviteur. Et c'est encore un thème qui est fréquent dans l'évangile de Marc. C'est un chemin qui passe par l'abaissement, par la souffrance, par la mort à soi-même. Mais qui dit abaissement ne dit pas compromission, et c'est pourquoi le Seigneur confronte souvent les autorités religieuses, hypocrites à l'époque, ces autorités qui égarent le peuple et dont il connaît l'endurcissement à son égard. Et à l'approche de la fin de son ministère, on voit Jésus qui entre triomphalement à Jérusalem, en Marc 11, verset 9 à 10. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Et en fait, ils ne savent pas à quel point leurs paroles sont vraies, mais ils ne savent pas non plus à quel point le règne du Messie qui franchit les portes de la ville, à quel point ce règne est différent de tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Et à peine arrivé à Jérusalem, Jésus à nouveau, il se frotte frontalement même aux autorités juives, hein, il les confronte encore, et même il les confond en leur rappelant quel est le culte authentique qui aurait dû être rendu à Dieu. Et plus encore, il les réduit au silence, en répondant à leur piège et en s'appuyant sur les Écritures qu'il interprète à la perfection. On le voit aussi au passage questionner les attentes messianiques hein, des juifs de l'époque. Et puis enfin, il annonce à ses disciples le jugement de ses mauvais bergers, ses responsables religieux. Et puis, il annonce aussi à ses disciples les persécutions et les temps à venir. Sauf que c'est ces autorités religieuses hein, qui sont jalouses de son succès, qui complotent contre lui depuis un certain temps pour le faire périr. Et Jésus, là, il s'apprête à affronter les pires des persécutions, mais il le sait parce qu'il est venu pour cet instant précis. Et l'enjeu derrière est beaucoup plus grand, parce qu'il va verser son sang, comme il l'a annoncé, pour beaucoup. Il va être lui-même frappé par Dieu. Et donc vient le temps de la Pâque, et là tous l'abandonnent. On l'a vu, les 11 se dispersent, Pierre le renie. Et c'est l'heure des ténèbres, l'heure de ses adversaires. On voit Jésus condamné dans une parodie de justice. On voit ses ennemis qui se moquent et qui pensent avoir remporté la victoire. Mais en réalité, Jésus est en train d'offrir volontairement sa vie sur la croix. Et on voit le roi serviteur qui meurt comme le pire des criminels. Sauf que, on l'a vu la semaine dernière, son dernier souffle, c'est la victoire la plus magistrale de l'histoire. Marc 15, 37 à 39. Cependant, Jésus poussa un grand cri et expira. Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri et le vit expirer de cette manière, il dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Et oui, seul le Fils de Dieu pouvait venir, souffrir et mourir ainsi, à cet endroit, après un tel ministère, et ce, afin d'offrir sa vie en rançon pour une multitude de pécheurs perdus. Et on l'a dit tout à l'heure, quelle autre preuve de sa victoire pouvait-il y avoir que le tombeau vide du dimanche matin? Et en fait, c'est un appel lancé au monde. Et pour le chrétien, c'est la preuve et la marque de notre espérance, l'espérance de la résurrection. Et pour tous ceux et toutes celles qui se sont confiés en lui, qui dans le temps présent souffrent l'épreuve et la persécution à la suite de leur sauveur Seigneur, mais ici nous contemplons l'espérance de la gloire. Marc 16, versets 6 à 7, il leur dit « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Et c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Amen.
Amen.
Peut-être, Lisa, si tu peux bien prier pour que tu...
Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ces moments passés autour de ta personne, autour de ta parole. Merci Seigneur pour cet évangile de Marc. Merci Seigneur pour vraiment ce que nous avons pu entendre. Et parce que Seigneur, nos regards ont été fixés sur toi. Merci pour ce tombeau vide Seigneur. Et c'est vrai que Seigneur, même quand nous sommes dans la crainte, nous pouvons Seigneur penser à cela. Toi tu as vaincu. Et Seigneur, avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Merci oui. Seigneur pour cette merveilleuse espérance que nous sommes avec toi, Seigneur. Que nous sommes toujours avec toi. Tu es là, Seigneur, à nos côtés. Et Seigneur, merci parce que tu nous accompagnes. Seigneur, nous voulons vraiment être reconnaissants pour cette possibilité que tu nous donnes de pouvoir, Seigneur, étudier ta parole ainsi. Et Seigneur, vraiment, que nous soyons soucieux, Seigneur, de ce privilège, que nous puissions vraiment le mettre à profit. Et nous rappeler encore ce que tu nous as dit ce soir. Merci Seigneur d'avoir accompagné chacun et d'être aussi avec nos sœurs, nos frères qui n'ont pas cette possibilité de se retrouver, Seigneur. Merci parce que tu es au prix aussi de chacun d'eux. Amen.
Amen. Amen.